Bonjour, soyez la bienvenue. Le message qui va suivre vous est proposé par la Mission Mondiale d'Évangélisation Jésus-Christ est la réponse. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez équipé pour relever vos défis et encouragé à travailler à la réalisation de votre destinée. Ce message a été enregistré à la chapelle des Moissonneurs, annexe de la chapelle Rehoboth, église principale de la Mission JCR. Sans plus tarder, nous vous laissons à l'écoute du révérend M. Piebi Gaëtan. Révérend M. Piebi Gaëtan.
Romains, le chapitre 8. Je lis à partir du verset 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Et bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparait de l'amour de Christ? Serais-je la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous mène à mort tous les jours et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Car j'ai l'assurance, déclare Paul, que ni la mort, ni la vie, ni les hauteurs, ni les puissances visibles et invisibles ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. J'aimerais attirer votre attention sur ce qu'il dit. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est quelque chose de très important. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu se tient pour nous, qui pourra se tenir contre nous? Si Dieu se tient pour nous, si Dieu se tient pour toi, qui pourra se tenir contre toi? La Bible dit personne. Personne ne peut se tenir contre toi. Le but de mon enseignement aujourd'hui est de t'encourager à croire au meilleur de Dieu te concernant. Ce jour est spécial. Spécial parce que tout simplement Dieu veut se tenir à tes côtés afin qu'ensemble vous puissiez faire des exploits. Il veut te donner le meilleur. Ses bontés se renouvellent, déclare la Bible, chaque matin. Et je crois qu'aujourd'hui Dieu veut renouveler ses bontés pour toi. Je veux que tu saches que Dieu t'a créé pour mener une vie d'impact. Dites impact. Dieu t'a créé pour mener une vie d'impact. Dites impact. Dites influence. Dites autorité. Dieu t'a créé pour mener une vie d'impact. La Bible nous révèle dans Matthieu 28 que les signes et les miracles doivent nous accompagner. Dieu a été donc programmé pour les signes, pour les miracles. Et rien ne peut t'empêcher de te réaliser sur cette terre. Dieu a été donc programmé Tu as été programmé. Voilà pourquoi la Bible dit, ceux qu'il a appelés, il les a aussi prédestinés. C'est-à-dire, nous sommes des gens prédestinés, des gens programmés pour vivre dans la sphère du miracle. Et nous réaliser sur cette terre. C'est très important. Le succès, je crois que tu peux l'atteindre si tu le veux vraiment. Il y a une leçon que j'ai apprise concernant le succès et l'échec. C'est que tous deux sont prévisibles. C'est une question de choix et de décision. L'échec et le succès doivent leur apparition à notre capacité de choisir. L'échec comme le succès sont prévisibles. L'échec comme le succès sont prévisibles. Ce ne sont pas des choses qui se manifestent par hasard, non. Au niveau de l'échec, au niveau du succès, rien ne vient par hasard. L'échec et le succès sont deux choses prévisibles. C'est nous qui décidons de leur apparition. C'est nous qui le décidons. Alors j'aimerais que vous me souveniez bien. C'est important. Ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Très important. Mais retenez que l'échec et le succès sont à la portée de nos décisions. C'est nous qui décidons. Je veux donc t'aider à comprendre le véritable sens de la prospérité. Parce que là est mon sujet. Le véritable sens de la prospérité. Vous savez, quand on parle de la prospérité aujourd'hui, dans nos différentes communautés, ça amène beaucoup de problèmes. Mais quel est le véritable sens de la prospérité? Là est mon sujet ce matin. Quel est le véritable sens de la prospérité? Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de 3 Jean. 3 Jean, il n'y a qu'un seul chapitre. Je lis le verset 2. Bien-aimé, je souhaite, déclare Jean, que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La version la Bible du peuple traduit ce verset ainsi. Très cher, puisque ton âme est sur la bonne voie, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tout aille bien pour toi. Très cher, puisque ton âme est sur la bonne voie, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tout aille bien pour toi. La version Parole Vivante déclare, cher ami, je souhaite et je prie pour que tu prospères à tous égards et que ton corps soit aussi en bonne santé comme ton âme. Dans ce texte, nous découvrons que le souhait de Dieu pour nous, c'est la prospérité. Remarquez bien que Dieu dit je souhaite, Dieu veut, et c'est son souhait et c'est son désir pour toi et pour tous ceux qui m'écoutent. Dieu souhaite que tu prospères à tous égards. Dieu veut notre prospérité et c'est son désir. Il veut notre prospérité. Je souhaite que tu prospères à tous égards. En examinant attentivement ce texte, vous découvrirez avec moi que la prospérité à tous égards est étroitement liée avec la prospérité de notre âme. La prospérité à tous égards est étroitement liée avec la prospérité de notre âme. Voilà pourquoi il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais il ajoute quelque chose, comme prospère l'état de ton âme. Donc ta capacité d'être prospère à tous égards est conditionnée par ton âme. C'est ton âme qui tient la clé de la prospérité. Quand je fais allusion à l'âme, je parle au fait de votre personnalité, c'est-à-dire votre moi. Quand je parle de votre âme, il est question de votre volonté ou encore de vos sentiments et pensées. Vos sentiments et pensées, c'est le champ sur lequel se joue votre destin. Votre destin se joue au niveau de votre âme. Votre prospérité se joue au niveau de votre âme. Au niveau de votre âme. C'est là où tout se joue. C'est la terre de votre destin. Votre âme. Vos pensées sont des semences puissantes parce qu'elles ont le pouvoir de modifier votre comportement, votre langage, votre vision de la vie, vos actions et voir votre destin. Votre vision de la vie, votre langage, votre comportement, votre destin peut connaître un changement qu'à partir du moment où votre âme connaît un changement. Si votre âme, la sphère de votre pensée ou de vos pensées, la sphère de vos sentiments, la sphère de votre volonté ne connaît pas un changement, il vous sera difficile de connaître également une prospérité à tous égards. Je parle de la prospérité. Vous voyez, quand je venais d'annoncer que je vais parler de la prospérité, vous pouvez entendre dans les cœurs des gens finances. Vous pouvez entendre finance. Voilà pourquoi si vous mettez une affiche en disant aux gens, thème du séminaire, la prospérité, automatiquement on dit finance. Mais je vais vous aider à apprécier la prospérité dans une autre dimension. C'est très important. C'est très important. Quelqu'un a dit, le pouvoir qui caractérise le succès et la prospérité est le pouvoir de vos pensées. Le pouvoir qui caractérise le succès et la prospérité est le pouvoir de vos pensées. Vous voyez, vos pensées sont elles qui vous permettent de jouir de la prospérité. Le domaine de votre âme. Le domaine de votre âme. La question à se poser est celle-ci. Quel est le véritable sens de la prospérité? Avant de répondre à cette question, j'aimerais que vous sachiez que la prospérité n'a rien à y voir avec nos possessions. La prospérité n'a rien à y voir avec ce que nous possédons. La prospérité, ce n'est pas l'argent. Je répète, la prospérité, ce n'est pas l'argent. Je sais que ça choque lorsqu'on le dit. Mais je répète, la prospérité, ce n'est pas l'argent. Le message de la prospérité, ce n'est pas prêcher l'argent. On peut prêcher l'argent, mais prêcher l'argent, ce n'est pas prêcher la prospérité. C'est deux choses différentes. Il ne faut pas confondre les deux. On a tellement fait l'amalgame entre le fait de prêcher l'argent et de prêcher la prospérité que la confusion s'est installée. La prospérité n'a rien à y voir avec nos biens matériels. Je vais vous l'expliquer. La prospérité n'a rien à y voir avec l'argent. Vous pouvez avoir l'argent, mais tout en étant pauvre. Vous pouvez avoir l'argent, rouler dans une Mercedes, rouler dans le dernier cri de la marque Peugeot, mais tout en étant mendiant. Parce que la prospérité, c'est d'abord un état d'esprit. La prospérité, c'est la hauteur d'une mentalité. C'est très important. Et la prospérité n'a rien à y voir avec l'argent. Donc, on peut être dans une belle voiture, dans une bonne villa, dans un beau bureau, tout en étant pauvre. Sinon, je vous posais la question, où est la différence entre une prostituée de luxe et une prostituée de bord de mer? Où est la différence? À quel niveau se situe la différence? La prostituée de luxe vit dans certains standing. La prostituée du bord de mer s'expose au bord de mer. Mais ils ont tous deux la même fonction. Prostituée. C'est seulement l'environnement qui change. Mais ils sont prostitués. Donc tu peux être pauvre tout en étant dans un cadre. Et tu peux être pauvre en étant dans un quartier. Mais tous deux, vous êtes pauvres. À cause de quoi? De votre mentalité. C'est ce qui explique que vous pouvez remettre de l'argent à quelqu'un. Vous pouvez lui remettre des milliards s'il a une mentalité de pauvreté. Revenez 3 ans, 4 ans ou 10 ans plus tard, il est toujours au même point de départ. Parce que ce n'est pas l'argent qui fait l'homme, c'est la mentalité qui fait l'homme. Il faut l'écrire. Et je sais que dans nos églises, le message de la prospérité a été mal enseigné au point de causer beaucoup de dégâts dans nos différentes communautés. Mais qu'est-ce que donc la prospérité? Je vais donner la définition que donne le dictionnaire. La prospérité se définit comme le fait d'être heureux. La prospérité se définit comme le fait d'être heureux. La prospérité se définit comme le fait d'être dans une situation favorable. En d'autres termes, c'est jouir du bien-être et d'une bonne santé. Quelqu'un qui est dans une situation favorable, qui joue du bien-être et de la bonne santé, est quelque part prospère. Remarquez bien que Jean dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère est l'état de ton âme, et sois en bonne santé. Donc, quand tu jouis de la bonne santé, du bien-être, quelque part, il y a une prospérité. Le bien-être, la faveur, sont les symptômes de la prospérité. La prospérité se définit comme le fait de jouir d'une fortune, c'est-à-dire d'être riche et avoir du succès. La prospérité se définit comme le fait d'être dans un état d'abondance. C'est le fait de se développer et avoir de l'essor. Le fait de se développer et avoir de l'essor. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Donc la prospérité, c'est le fait de se développer. Il faut se développer. Tu veux posséder les biens matériels. Tu veux posséder les finances. Je vais te donner l'ordre des choses. La première chose que tu dois faire, ce n'est pas de courir après les finances. Ce n'est pas de courir après les biens matériels. En fait, ta capacité de posséder ces choses-là est conditionnée par ta capacité de changer dans tes pensées. N'oubliez pas que Proverbe déclare, il est tel que les pensées de son âme. Si vos pensées ne changent pas, vous pourrez faire 15 ans dans un endroit, même si on vous donne des richesses, vous mourrez dans cet endroit-là. Et c'est la prospérité, la transformation de notre âme qui nous permet d'avoir de l'essor. Et cet enseignement, je vous le donne pour que vous puissiez avoir de l'essor. Le 11 septembre 2001, s'est produit un drame qui a bouleversé le monde entier. Devant nos postes de télévision, nous avons vu à New York l'effondrement des tours jumelles. Nous l'avons tous vu. Le 11 septembre 2001, ça restera dans les annales de l'histoire. Je suis en train de développer ou encore vous donner la définition de qu'est-ce que c'est que la prospérité. Donc je disais, le 11 septembre 2001, s'est produit un drame qui a bouleversé le monde entier. Devant nos postes de télévision, nous avons vu à New York l'effondrement des deux tours jumelles. Cet endroit était le centre commercial du monde. Le centre commercial du monde que les terroristes venaient de détruire. En détruisant cet endroit, ils imaginaient que en faisant écouler les tours, la puissance économique des États-Unis sera au sol. Voilà pourquoi les terroristes ont ciblé les tours jumelles. Leur but, c'était quoi? C'était de toucher le cœur des États-Unis. Et ils se sont dit que si nous touchons le cœur des Américains, on va pouvoir mettre enfin les États-Unis au sol. Voilà ce qui les a motivés. Touchons le cœur des États-Unis. Ils étaient convaincus qu'en détruisant les tours, ils détruisaient ce qui faisait la puissance et la grandeur des Américains. Mais ils se sont trompés. Ils se sont trompés, mes amis. Ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Parce qu'ils n'avaient pas compris que la puissance des Américains ne résidait pas dans leurs dollars ni dans leurs possessions. Ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Écoutez, une chose importante que nous devons savoir et qui a été exprimée par un éminent homme de Dieu, des USA, à la personne de J.C. Duplantis, il a déclaré ce qui suit. Nous ne sommes pas prospères parce que nous avons beaucoup d'argent, mais parce que nous détenons la puissance de l'abondance. Nous ne sommes pas prospères parce que nous détenons beaucoup d'argent, mais parce que nous détenons la puissance de l'abondance. Voilà pourquoi un an plus tard, jour pour jour, les terroristes ont observé les Américains. Ils ont observé les Américains. Pendant un an à deux ans, ils ont nettoyé l'endroit. Ils ont pleuré leur mort. Ils ont enterré leur mort. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que pendant qu'ils nettoyaient, pendant qu'ils enterraient leur mort, et pendant qu'ils pleuraient leur mort, l'économie américaine continuait à fonctionner. La logique aurait voulu qu'après avoir détruit la tour, que les Américains soient au sol. Mais les terroristes se sont rendus compte que les Américains règnent toujours et ils continuent à gérer le monde. Alors, ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas ce qui faisait la puissance de l'abondance américaine. Et par cet exemple, je découvre que l'abondance n'est pas conditionnée par ce que nous possédons. Ce n'est pas conditionné par ce que nous possédons. Le secret de leur force se trouve dans la parole que cet homme de Dieu vient de dire. Nous détenons la puissance de l'abondance. Voici la clé de la prospérité. Nous détenons la puissance de l'abondance. Vous savez, on peut vous arracher vos enfants. On peut même vous arracher votre femme. On peut vous arracher tout ce qui a de précieux dans votre vie. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas vous arracher. C'est ce que vous savez que vous êtes. Ce que vous savez de vous, c'est la source de votre force. La source de votre force, ce n'est pas la voiture. La source de votre force, ce n'est pas l'argent. La source de votre force, ce n'est même pas les enfants ni la femme. Sinon, l'histoire de Job devait être rayée de la Bible. Job a tout perdu. Mais remarquez bien qu'il a reçu 7 fois plus ce qu'il avait perdu. Quand vous connaissez la source de votre force, même si on vous arrache tout, puisque vous connaissez la source, vous allez reconquérir ce qu'on vous a arraché. Et les terroristes n'ont pas compris que la force des Américains ne se trouvait pas dans le dollar. La source des Américains ne se trouvait pas dans le dollar. Donc, découvrez la source de la prospérité. Et vous rentrez pleinement dans une vie prospère. David l'a exprimé de cette manière. Dans le psaume 36, à partir du verset 9. Il dit, tu nous rassasies de l'abondance de ta maison. Et tu nous abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Et par ta lumière, nous voyons la lumière. Car auprès de toi est quoi? La source de la vie. Et par ta lumière, nous voyons la lumière. Car auprès de toi est la source de la vie. Et par ta lumière, nous voyons de la lumière. Et tu nous rassasies de l'abondance de ta maison. En d'autres termes, tu nous combles. Tu nous combles de l'abondance de ta maison. Deutéronome 30, le verset 9 déclare, l'Éternel ton Dieu te comblera des biens en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton gros, le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur. Parlant de Joseph, dans le livre de la Genèse 39, le verset 3, il nous a révélé que son maître vire que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. L'Éternel faisait prospérer. Voilà un jeune homme vendu par ses frères, coupé de sa famille, s'est retrouvé en exil, s'est retrouvé en prison. Mais la Bible dit sa vie était caractérisée par la prospérité. Comment un prisonnier peut-il prospérer tout en étant prisonnier? Comment un prisonnier peut prospérer tout en étant prisonnier? Au point où celui qui avait l'autorité sur lui, son maître, s'est rendu compte que cet enfant-là, tout ce qu'il touchait, prospérait. Tout ce qu'il touchait prospérait. Joseph avait une vie prospère, mais pourtant il était prisonnier. La logique veut que si tu prospères, tu ne sois pas prisonnier. Alors ce texte nous aide à comprendre que la prospérité n'a rien à voir avec l'argent. La prospérité n'a rien à voir avec les biens matériels. Quelqu'un de prospère, c'est quelqu'un du 1er janvier au 31 décembre, il peut nourrir ses enfants. Il a la force de nourrir ses enfants. Il a la force de payer ses factures. Il a la force de prendre soin de ses enfants. Ça, c'est un homme prospère. La prospérité, c'est de manquer de rien. C'est être dans un état où la provision est toujours assurée. Voilà pourquoi quand vous lisez votre Bible, Élie était un homme prospère. Mais on ne nous parle pas des richesses d'Élie. Mais pourtant, il était prospère, il ne manquait de rien. Cet homme-là avait la provision divine. Les corbeaux le nourrissaient. J'aurais bien voulu entendre un amen. Les corbeaux le nourrissaient. Les corbeaux le nourrissaient. Il était prospère. Il était prospère. Et j'aimerais insister, avant de rentrer pleinement dans mon message, j'aimerais insister là-dessus. La prospérité, ce n'est pas l'argent. La prospérité, ce n'est même pas un message. La prospérité, c'est un style de vie. C'est un style de vie. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme, c'est un style de vie. C'est un style de vie. Et vous devez comprendre que la prospérité, c'est elle qui nous permet de posséder l'argent. C'est elle qui nous permet de posséder les biens. Mais ce n'est pas l'argent qui nous rend prospère. C'est la prospérité qui nous permet d'être prospères sur le domaine, dans le domaine financier. Je réponds, ce n'est pas l'argent qui nous rend prospères, mais c'est la prospérité qui nous permet de posséder l'argent. C'est très important. La prospérité vous permet de posséder l'argent. Mais si au niveau de votre âme, au niveau de votre mentalité, il n'y a pas une transformation, vous ne pourrez jamais posséder tout ce qui a de bien. Parce que votre manière de vivre n'est rien d'autre que le reflet de votre mentalité. Écoutez, la Bible dit, le paresseux dit le lion est dehors. On demande au paresseux de faire quelque chose, mais il se justifie en disant, je ne peux pas me lever sortir, parce qu'il y a un lion. Il y a un lion dehors. Qu'est-ce qui permet au paresseux de vivre dans la dépendance? C'est parce que dans sa tête, il s'est imaginé l'impossible. Et quelqu'un qui croit que ça ne peut pas marcher pour lui, vous dira toujours, dans cette affaire-là, il y a un lion. Il a préféré vivre dans cet état-là. Parce que tout simplement, il estime qu'il y a un lion. Écoutez, d'autres vont dire, comme cet homme dans Jean 16, je n'ai personne. Je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Voilà pourquoi depuis 38 ans, je suis malade parce que je n'ai personne. Voyez, la mentalité de cette personne-là n'a pas connu une transformation. Et comme elle n'a pas connu la transformation, la personne est restée là couchée pendant 38 ans. Mais pourtant, il avait l'opportunité. L'opportunité de guérir. Écoutez, quand vous voulez réellement la guérison, vous êtes prêt à tout payer.
Même s'il n'y a personne, qu'est-ce qui l'empêchait pendant 38 ans de commencer à tirer un peu son corps, un peu son corps, de dormir même au bord de la piscine? Il avait trouvé une solution. Et si demain à côté de la piscine, et que l'eau s'agitait, il devait tomber avant tout le monde. Juste un petit mouvement, il est dedans. C'est tout. Quand vous voulez quelque chose, vous trouvez des solutions, mes amis. Je dis, quand vous voulez posséder quelque chose, vous trouvez des solutions. Le paresseux dit, il y a un lion. La mentalité. Proverbe 8:14, la voix de la sagesse déclare, le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence et la force est en moi. Qui détient le succès? C'est Dieu. C'est Dieu qui détient le succès. C'est Dieu qui détient le succès. Vous savez, Deutéronome 28 dit, je ordonnerai à la bénédiction. Qui ordonne à la bénédiction? C'est Dieu. Donc la bénédiction, on ne la cherche pas dans un supermarché. C'est Dieu qui la donne. C'est la source de la prospérité. C'est Dieu qui la donne. Et les Américains ont compris ça. Voilà pourquoi sur le dollar, ils ont mis en Dieu. Nous avons mis notre confiance. Si les terroristes avaient compris que la source de leur abondance était Dieu, ils n'auront pas détruit les tours. Ils ont détruit les tours. Mais je vous annonce qu'ils ont le projet de bâtir des tours plus grandes que celles-là. Pourquoi? Parce qu'ils veulent démontrer aux terroristes que notre puissance, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Mais j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui fait la puissance de la prospérité gabonaise? J'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui fait la puissance de la prospérité de l'Église? En Guinée, si elle est vraiment. Qu'est-ce qui fait la puissance de la prospérité des Américains? C'est Dieu. Ils ont mis en Dieu. Nous avons mis notre confiance. Détruisez tout. Mais puisque nous puisons notre force en Dieu, qui au fait la source de notre abondance, ils connaissent la loi de la source et de la ressource. Donc vous nous détruisez, mais on retourne à la ressource. Et la source nous permet de nous ressourcer et d'avoir à nouveau la force de construire des tours plus grandes que celles que vous avez détruites. Voilà la véritable prospérité, mes amis. Voilà la véritable prospérité. Mais celle-là demande une transformation. Parce que décider de vivre selon les principes de Dieu, mes amis, ça demande une transformation, un travail. Parce que décider de vivre selon Dieu, c'est prendre le risque de s'abandonner entre les mains de Dieu. Voici ce que je vais vous dire maintenant et je vais vous donner la première chose pour vous aider à rentrer dans la prospérité. La première chose à savoir concernant la prospérité est celle-ci. La prospérité est un message d'obéissance. La prospérité est un message d'obéissance. Le secret de la puissance de la prospérité se cache dans la promesse de l'alliance que Dieu a faite avec nous et avec notre nation. Vous savez, il faut un peu étudier l'alliance de Dieu. L'alliance de Dieu. L'alliance, le pacte d'alliance entre Dieu et toi. Il faut que tu le découvres. Quelle est l'alliance que Dieu a faite avec toi? Et des fois, on doit sonder l'alliance de Dieu avec notre propre pays. Parce que les nations deviennent fortes sous le principe des alliances. Mais nous devons essayer de découvrir quelle est l'alliance que le Gabonais a fait avec Dieu concernant le destin de son pays. Israël avait une alliance avec Dieu. En tant que peuple, et chaque personne qui constituait Israël eux-mêmes avaient une alliance avec Dieu. Et c'est très important. La promesse de l'alliance que Dieu fait avec nous ou avec notre nation, on doit la découvrir. La capacité d'une nation à se reposer sur Dieu est conditionnée par quoi? Par l'alliance. Et c'est dans cette alliance qu'il y a la provision divine. Quelle est la provision divine? L'une des vérités que vous devez comprendre, c'est qu'au-dessus de chaque nation, il y a toujours une force invisible qui gouverne la nation. Maintenant, cette force est conditionnée par l'alliance que les dirigeants ont faite avec cette puissance invisible. Les Américains, et ils l'ont fait avec Dieu. Voilà pourquoi ils sont toujours dans les hauteurs. Mais je vais vous donner le secret des Américains. Ils ont fait une alliance avec Dieu, mais ils ont fait une alliance avec Israël. Parce qu'ils ont découvert dans la Bible ce texte qui dit, celui qui te bénira sera béni. Voilà pourquoi vous ne verrez pas les Américains se liguer contre les Juifs. Parce que c'est une promesse qui est là. Dieu a dit au sujet d'Israël, quiconque te bénira sera béni. Dans Deutéronome 8, le verset 17 à 18, il est dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. C'est l'Éternel ton Dieu qui te donnera la force d'acquérir les richesses, afin de confirmer aujourd'hui son alliance. C'est-à-dire, afin d'établir son alliance. Et quand vous rentrez dans la sphère de la prospérité, et que vous commencez à posséder ce qu'il y a de meilleur sur cette terre, au fait, ce n'est rien d'autre que le cachet de Dieu. C'est-à-dire, Dieu confirme son alliance avec vous. Il le confirme. Mais il dit, garde-toi de dire, c'est ma force qui m'a permis d'acquérir cela. Dans cette alliance-là, tu dois comprendre que la source de tes revenus, c'est Dieu. Le succès de tes revenus, tu le dois à Dieu. Et la Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Le souffle que tu possèdes, c'est Dieu qui te l'a donné. Et c'est grâce à ce souffle que tu peux travailler, avoir la force d'acquérir des richesses, de prospérité. D'acquérir des richesses et de prospérer. Et Dieu dit, garde-toi de dire à ton cœur, c'est la puissance de ma main. Comprends au fait que ta source, c'est moi. Et que cette source-là, tu pourras toujours y puiser aussi longtemps que tu respectes l'alliance. Que tu es obéissant. Et que la reconnaissance est toujours dans ton cœur. Une personne qui a de la reconnaissance ne pourra jamais les difficultés à déposer dans les mains de Dieu une semence. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est Dieu qui donne de la semence au semeur. La semence quitte ma main, mais ne quitte pas ma vie. Car elle m'attend à l'heure du destin. Car ce qu'un homme sème, il le récolte toujours. Elle quitte ma main, mais ne quitte pas ma vie. Elle reste attachée à ma vie. Et pour respecter l'alliance, je ne dirai pas, c'est ma force qui m'a permis d'être ce que je suis. Je resterai toujours dans une attitude de reconnaissance, afin que la source continue à faire jaillir la prospérité dans ma vie. C'est important. Ce verset présente la source de la prospérité, mes amis. Comme nous venons de le voir, et de l'abondance. Cette source est l'alliance que Dieu a faite avec nous. La prospérité est un message d'obéissance, je le redis. L'obéissance au principe de Dieu est la voie qui nous conduira à la prospérité. Voici des vérités que vous devez connaître et que vous devez retenir. Dieu nous a donné le pouvoir de guérir. Mais la manifestation de la puissance de la guérison est conditionnée par l'obéissance. Quand vous lisez la Bible, il dit, je vous donne le pouvoir d'imposer les mains aux malades et de guérir les malades. Donc Dieu nous donne le pouvoir Mais la manifestation de la guérison est conditionnée par notre capacité d'obéir. Mais si nous n'obéissons pas, on ne peut pas voir de guérison. Pour pouvoir jouir de la guérison, il faut obéir. Dieu nous a donné la puissance pour être sauvés. Mais la manifestation du salut est conditionnée par notre obéissance à accepter Christ. Le salut est à la disposition de tout le monde, est à la portée de tout le monde. Mais ne peut jouir du salut que celui qui obéit et qui accepte que Jésus rentre dans sa vie. Dieu nous a donné les clés de la sagesse pour être prospère. Mais la manifestation de la prospérité se cache dans notre obéissance. C'est tout. La manifestation de la prospérité se cache dans notre obéissance. Deuxièmement, la bénédiction de Dieu est le résultat d'un choix et non de la chance. Il y a des gens qui pleurent la chance. Je veux la chance. Oh, les autres ont la chance. La chance d'avoir un enfant. La chance de se marier. La chance de réussir dans les entreprises. Et les gens pleurent la chance. Non! La bénédiction de Dieu dans notre vie n'a rien à y voir avec la chance. Je vous ai dit, l'échec comme le succès, les deux sont prévisibles. L'échec est conditionné. Le succès est conditionné. La bénédiction de Dieu est le résultat d'un choix et non de la chance. Vos choix déterminent si vous allez réussir ou échouer. Vos choix. Je vais vous dire quelque chose. Et je veux que vous écriviez ce que je vais vous dire. La bénédiction de Dieu, c'est le résultat d'un choix et non de la chance. Écrivez-le. Dieu nous a créés libres dans le choix de nos décisions. Vous pouvez décider aujourd'hui d'élever vos standards en vue de la prospérité. Comme vous pouvez également décider de mener votre petite vie de médiocrité sans but. Vous pouvez décider. Vous pouvez décider. En fait, quand Dieu nous a créés, il nous a donné la capacité de choisir. Et cette capacité de choisir est ce qui nous permet de donner une direction à notre vie. En fait, notre vie prend la direction que nous donnons à notre vie. Et la direction que nous donnons à notre vie est conditionnée par les choix que nous faisons. Si je décide aujourd'hui, je dis, je me donne 5 ans pour changer mon statut, je peux le changer. Parce que c'est moi qui décide. Donc mon changement est conditionné par mes choix. Par mes choix. Comme je peux dire, bon, je reste dans l'état où je suis. Les gens qui ne changent pas ont décidé de ne pas changer. Les gens qui changent ont décidé de changer. Les gens qui prospèrent ont décidé de prospérer. Les gens qui ne prospèrent pas ont décidé de ne pas prospérer. Les gens qui se marient ont décidé de se marier. Les gens qui ne se marient pas ont décidé de ne pas se marier. C'est une question de choix. Vivre dans la défaite et dans la victoire est à la portée de nos choix. C'est moi qui décide de ma vie. Je donne la direction que je veux à ma vie. Je peux décider aujourd'hui d'être excellent et de commencer un travail dans ma mentalité. Et je pourrais alors accéder à l'excellence. Tout est une question de choix. La chance n'existe pas. Vous pouvez pleurer en disant, oh, je n'ai pas la chance. Non, ce n'est pas une question de chance. Vous prenez de mauvaises décisions tout simplement. Les décisions que vous prenez ne sont pas bonnes. Dans le domaine de la prospérité, la chance n'existe pas. Si vous avez cru à cela, vous vous êtes trompé, les amis. Vous vous êtes trompé, vous vous êtes trompé. La faveur de Dieu, je le répète, est une question de choix. Dieu dit aujourd'hui la même chose qu'il a eu à dire à Moïse dans Deutéronome 30, 19 à 20. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous. C'est Dieu qui parle. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous. Il dit, le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Remarquez bien, Dieu dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Qui parle? C'est Dieu. Dieu dit, aujourd'hui là, le ciel est témoin, la terre est témoin, que je mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. C'est ce que Dieu nous dit ce matin. La vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il dit, choisis la vie afin que tu vives. Toi et ta prospérité. Toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu. Pour obéir à sa voix. Et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie. Et le prolongement de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays de Canaan. Le pays de la prospérité. Que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Dieu dit, je prends à témoin aujourd'hui le ciel et la terre. C'est ce qu'il a dit à Moïse et Dieu nous le dit aujourd'hui. Je mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et Dieu dit, à vous de choisir. Vous savez ce que ça veut dire? La terre ne pourra pas me condamner et dire, je n'ai rien fait. Le ciel ne pourra pas me condamner et dire, je n'ai rien fait. Je mets tout ça à votre portée. Maintenant, pour ce que vous allez devenir, tout dépend de vos choix. Si vous choisissez la vie, vous aurez la vie. Si vous choisissez la désobéissance, vous aurez la mort et la malédiction. Si vous obéissez, vous aurez la vie et la prospérité. Il dit, j'ai pris à témoin le ciel et la terre. Revoyons, s'il vous plaît, le verset 19. Je suis en train de finir. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. À travers ce verset, Dieu nous amène à faire de notre destin ce que nous voulons. Dieu nous amène à faire de notre destin ce que nous voulons. C'est à nous de choisir la vie ou la mort. C'est à nous de choisir la vie ou la mort. La puissance de la prospérité se cache dans l'obéissance à Dieu. Voilà la puissance de la prospérité. Et quand vous obéissez à Dieu, c'est que vous acceptez de faire un travail dans votre âme. Vous acceptez de faire un travail. Il faut que votre âme change. Parce que votre manière de vous tenir dans la vie est conditionnée par la mentalité qui vous anime. Vos succès, vos victoires, vos défaites sont conditionnées par les pensées qui vous animent. C'est tout. Et Dieu dit, la vie ou la mort, à vous le choix. Juste au cas où vous répondez à cette question-là, si vous avez décidé de choisir la vie, Dieu vous demandera d'élever le standard. Et il vous montrera la voie qui conduit au sommet. Si vous dites, moi c'est la vie, Dieu va t'amener à élever les standards. Il va te dire, mon fils, tu veux la vie? Commence à changer ton langage. Tu veux la vie? Commence à changer ta mentalité. Tu veux la vie? Commence à exercer tes mains pour faire quelque chose. Tu veux la vie? Tu veux la vie? Commence à entreprendre. Si tu choisis la vie, Dieu te montrera le chemin. Mais il te demandera d'élever les standards. Il y a des gens qui veulent le meilleur tout en étant médiocre. Ça ne se marie pas, c'est impossible. Vous ne pouvez pas marier le meilleur et la médiocrité. C'est comme si vous voulez mélanger l'argile et le fer. Ça ne peut pas. Quand vous mélangez l'argile et le fer, tant que l'argile est mouillée, ça attrape le fer. Dès que ça sèche, ça se détache seul du fer. Et quand vous voulez l'excellence avec une mentalité médiocre, mes amis, vous n'allez pas faire longue route. À vous de choisir. Choisissez. Pour finir, troisièmement, vous ne pouvez pas être qualifié pour l'abondance de Dieu si vous êtes encore un enfant. Vous ne pouvez pas. Être qualifié pour l'abondance de Dieu si vous êtes encore un enfant. 1 Corinthiens 13, 11 dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfance. Vous ne pouvez pas vouloir entrer dans la prospérité avec les mêmes pensées qui ont dirigé votre enfance. Voilà pourquoi vous pouvez avoir des adultes de 40 ans qui réfléchissent comme des enfants. Et c'est dommage de se rendre compte que même dans nos nations africaines, les dirigeants ont la mentalité d'enfant. Vous allez entendre quelqu'un dire, si j'arrange la cité, est-ce que demain les gens là seront reconnaissants et diront que c'est grâce à moi que la cité a changé? Ça, c'est l'enfantillage. Je suis désolé, c'est l'enfantillage, c'est encore un enfant. Et ça, c'est un perdant. Parce qu'il ne sait pas comment on rentre dans l'histoire. Il ne sait pas comment maintenir sa mémoire dans l'histoire. Et l'Afrique souffre de ces leaders-là. Des leaders avec une mentalité broyée passée. Des leaders qui ont une mentalité d'enfant. Ils veulent le meilleur, mais ils sont enfants dans leur pensée. Et on le voit. On le voit. Parce que la personne n'est pas de la même ethnie que toi. Tu ne peux pas la favoriser. C'est l'enfantillage. C'est l'enfantillage. Il est question ici du destin du pays. Et le destin du pays n'est pas conditionné par l'ethnie. Mais n'oubliez pas que ce qui fait la force d'un pays, c'est les ethnies réunies qui ont mis ensemble leurs forces pour changer le destin du pays. Et on ne doit pas raisonner en termes d'ethnie. On doit raisonner en termes de potentiel et de leadership. Et on veut la prospérité du pays. Mais on a les leaders broyés, cassés, déposés, brisés de tous les côtés. Un jour, j'étais dans une nation, je vais taire le nom. Écoutez bien cette histoire-là. Je suis parti prêcher dans une nation africaine. Et j'arrive, la première chose qu'on m'annonce, c'est que le président a décidé d'augmenter les salaires des fonctionnaires. Écoutez l'histoire. Il a décidé d'augmenter le salaire des fonctionnaires. Demandez-moi de combien. Dites combien. 25 francs. Et il décide, je vous dis, ah Seigneur Jésus, le président prend la décision, il dit, je vais augmenter les salaires. Il dit, sur chaque salaire, j'ajoute 25 francs. Et sa maman se lève, une histoire authentique, sa maman, qui l'a mise au monde, se lève, en disant, hey, mon fils, si tu ajoutes 25 francs sur le salaire, est-ce que demain ils vont dire que tu les as fait du bien? N'augmente pas. Laisse-les comme ça, c'est un peuple mauvais. Dites enfant. Dites enfantillage. Dites mentalité broyée, cassée, déposée. Et voilà la douleur de l'Afrique. Et il n'y a pas que les dirigeants. Mais il y a également les pasteurs. Les leaders religieux. Les offrandes rentrent dans les paniers. Mais ils n'ont pas la force d'améliorer même seulement l'environnement du culte. Pour permettre au moins aux brebis de venir adorer le Seigneur dans de bonnes conditions. Vous vous asseyez sur des chaises broyées, le coccyx fait mal. Mais les offrandes rentrent. Mes amis, ce n'est pas un problème seulement attaché aux dirigeants. Même nos églises souffrent de cette mentalité broyée, cassée, déposée. On nous prend des gens qui ont une mentalité broyée, cassée. On nous les dépose dans les sphères de décision. Et voilà pourquoi dans nos familles, nous avons des petits dieux. Et dans nos provinces même, on a des petits dieux. Si tu ne passes pas par moi, rien ne se fait. Mais c'est la mentalité broyée, cassée, déposée. Quoique pauvre, mais ils sont, quoique riche, mais ils sont pauvres. Et ayant les moyens, mais ils sont pauvres. Pauvres dans leur mentalité. Pauvres dans leur âme. Pauvres dans leur manière de fonctionner. Un grand homme fait des gens. Un grand homme fait un pays. Un grand homme laisse sa mémoire. Pas en dressant un monument. Pas en écrivant cela en lettres d'or collées sur un bâtiment. Mais en écrivant cela dans la mémoire des gens. Voilà un grand homme. Et même s'il part, il reste vivant. Vivant parce qu'il est en nous. On repense à lui. Et aussi longtemps que la Côte d'Ivoire sera la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire passera au fouet. Parce qu'au fouet a fait la Côte d'Ivoire. La mentalité. On veut la prospérité, mais on est des enfants. On est des enfants. On est des enfants. On est des enfants. Vous savez, celui qui dirige notre pays, il y a une chose qui me fait plaisir avec lui. Une chose. Il a la capacité d'écouter les gens. Il a la capacité de répondre. Maintenant, étudiez les symptômes de la royauté. Vous allez vous rendre compte qu'un roi a la libéralité. Un pauvre a la main fermée. Et voilà pourquoi la capacité d'un roi de libérer la semence est conditionnée par sa capacité d'écouter. C'est pour ça que le proverbe dit, celui qui écoute et qui sonde des choses, trouve les réponses. Mais si vous êtes un roi, avec les collaborateurs, mentalité broyée, cassée, déposée, il y a des projets qui ne se réaliseront jamais. Ça, c'est à un autre niveau. Mais regardez-vous, regardez-vous. Regardez la manière dont vous vous tenez avec les enfants du voisin. Vous ne pouvez pas aider l'enfant du voisin, même si vous voyez qu'il souffre. Parce que tout simplement, c'est pas votre enfant. Est-ce que demain, ses parents seront reconnaissants? Ça, c'est une mentalité. Broyée, cassée, déposée. Mais si tu veux faire ton histoire, aide l'enfant du voisin. Et le jour que tu partiras, tu ne sais pas ce que demandera devant demain cet enfant-là. Mais cet enfant-là sera obligé d'être reconnaissant vis-à-vis de toi en prenant soin de ta descendance. Et c'est comme ça qu'il y a des enfants qui n'ont pas eu la grâce de voir leur père vivre dans la prospérité. Mais leur père a semé dans les vies des gens. Et les gens l'ont réussi. Et ensuite, ils sont partis prendre la postérité de cette personne-là et les ont amenés dans une position élevée. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas par où notre bénédiction peut venir. Mais il faut avoir une hauteur d'esprit. Mais aussi longtemps que vous êtes enfant, vous ne pouvez pas. Et quand vous ne comprenez pas le message de la prospérité, vous pouvez venir dans l'église. On peut vous parler des défis, comme je vais vous en parler. Mais si vous avez une mentalité d'esclave, vous allez dire, je ne suis pas dedans. Mais tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris, je vous ai dit. Quand vous répondez à un besoin, vous réglez un problème dans votre vie. Jésus a dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. Et les disciples lui disent, mais Seigneur, quand est-ce t'avons-nous vu étranger et nous t'avons recueilli? Avoir faim et on t'a donné à manger. Être nous. Et quand t'as revêti, Jésus le regarde et dit, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous voyez, ils ont aidé ces personnes-là, mais ils ont réglé un problème de reconnaissance éternelle. Et le jour que la trompette sonnera et que tout homme se tiendra devant Dieu, la Bible dit, on sera jugé en fonction de nos œuvres. On ne sera pas jugé en fonction de nos paroles, mais on sera jugé en fonction de nos œuvres. Mais si nous n'avons pas emmagasiner des points dans le tabernacle éternel. Qui va nous les rappeler? La Bible dit, celui qui prête aux pauvres, prête à l'Éternel. Tu règles le problème du pauvre, Dieu réglera ton problème. La Bible dit, celui qui ferme ses oreilles au cri du malheureux, criera lui-même, mais l'Éternel n'entendra pas son cri. Donc, comment résoudre mon problème de prière? Comment faire en sorte que le ciel soit toujours sensible à ma prière? Je suis sensible au cri du malheureux. Et puisque je suis sensible au cri du malheureux et que je réponds toujours, le jour que j'écris, Dieu entend. Et ce sont des clés de la sagesse. La prospérité, mes amis, commence là, dans votre mentalité. Vous avez une mentalité broyée, vous ne pourrez pas prospérer. La prospérité, c'est à ceux qui ont une mentalité royale. Je voulais dire, à ceux qui épousent la mentalité du royaume. Les hommes du royaume marchent selon les principes du royaume des cieux. C'est ce qui fait leur force. Comme Joseph, ils prospèrent à tous égards. Tout ce qu'ils font réussissent parce qu'ils se tiennent sur le chemin de l'obéissance. Et Dieu dira à Josué que ce livre de la loi, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pas pour prêcher, pas pour enseigner, pas pour exhorter les autres, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et il ajoute, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est alors que tu réussiras. La prospérité, ce n'est pas posséder l'argent. La prospérité, ce n'est pas avoir des biens. La prospérité commence d'abord dans notre âme. Et quand notre âme change, notre âme nous donne la force de travailler. Et en travaillant, nous possédons. Et en possédant, nous jouissons de ces choses. C'est la prospérité de l'âme qui nous amène à posséder l'argent. La prospérité de l'âme nous amène à posséder les biens matériels. La prospérité de l'âme nous permet d'améliorer notre style de vie. La prospérité, elle n'est pas d'abord externe, elle est interne. Et quand vous la vivez intérieurement, alors la puissance sort de vous pour impacter votre environnement et vous permettre de posséder. Voilà la prospérité. Un homme et une femme prospèrent. Ce sont des personnes qui vont de succès en succès. La Bible dit, Joseph réussissait. La Bible dit, Isaac était riche. Il allait de richesse en richesse. Au point où il est devenu fort riche. Donc même dans la richesse, il y a les dimensions. Mais qu'est-ce qui nous amène de richesse en richesse? C'est tout simplement la transformation de notre âme. Plus nous connaissons un changement, nous montons plus haut. Plus nous changeons de mentalité, nous montons plus haut. Et plus nous montons, tout autour de nous également change. Et même notre compte bancaire devient, à vous de dire le reste. Voilà la prospérité, mes amis. C'est ça la prospérité. C'est ça la prospérité. Amen. Amen. Vous comprenez maintenant pourquoi Jésus a dit détruisez ce temple. En 3 jours, je vais le rebâtir. Pourquoi? Il connaissait le principe de la source. Et ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Ils l'ont flagellé. Ils l'ont détruit. Ils l'ont cassé. Ils l'ont humilié. Ils l'ont enterré. Ils ont mis une pierre. Ils ont dit, reste là-bas. Ils l'ont mis dans une pomme. Ils l'ont enfermé. Ils ont dit, voilà ton destin. Et ils ont dit, voilà ton destin. Reste là-bas. Meurs là-bas. On t'a tué. Tu ne peux plus vivre. Mais connaissait la source. Le troisième jour, il est ressuscité. Il est ressuscité. Et je vais te dire qu'ils t'ont mis dans la tombe. Mais parce que tu as compris la loi de la source et de la ressource, tu vas sortir de là. Je vais te dire, ils t'ont arraché les biens, ils t'ont dépouillé. Mais parce que tu connais la loi de la source et de la ressource, tu vas récupérer ces biens-là. J'ai dit, ils ont enlevé ton honneur. Ils ont mis les excréments sur ton corps. Tu as l'impression de devenir ridicule. Mais je vais te dire, parce que tu connais la loi de la source et de la ressource, la dignité, tu vas la reconquérir. J'ai dit, ils t'ont arraché les enfants, ils t'ont arraché le mari, ils t'ont arraché tout. Mais parce que ce matin, tu as compris la loi de la source et de la ressource, tu vas reconquérir ce qu'ils ont pris. J'ai dit, tu vas reconquérir ce qu'ils ont pris. J'ai dit, tu vas reconquérir ce qu'ils ont pris. J'ai dit, tu vas reconquérir ce qu'ils ont pris. J'ai dit, tu vas reconquérir ce qu'ils ont pris. J'ai dit, tu vas reconquérir ce qu'ils ont pris. J'ai dit, tu vas reconquérir ce qu'ils ont pris. J'ai dit, tu vas reconquérir ce qu'ils ont pris. J'ai dit, tu vas reconquérir ce qu'ils ont pris. J'ai dit, tu vas reconquérir ce qu'ils ont pris. Tu vas reconquérir ce qu'ils ont pris. Tu vas reconquérir ce qu'ils ont pris. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et s'il n'a pas épargné son fils, et comment ne nous donnera-t-il pas la prospérité? Aujourd'hui, où nous venons d'entendre ce message de la source et de la ressource. Et oh Dieu est bon ce matin.
En espérant que ce message vous a été en bénédiction, nous vous encourageons à vous procurer le catalogue de nos productions audiovisuelles au numéro suivant 00 241 07 29 68 47 et au 00 241 07 39 82 79 ou à l'adresse email suivante missionjcr@yahoo.fr. Merci et que Dieu vous bénisse.